Bonsoir, comment allez-vous? Le 1er mars, c'était la journée mondiale du compliment. On entend souvent dire « ça m'a fait ma journée » pour dire qu'un truc gentil vous a enjolivé la vie jusqu'au soir. L'écrivain Mark Twain va plus loin en disant « avec un bon compliment, je peux tenir 2 mois ». C'est vrai qu'un compliment, ça nourrit. Alors pourquoi ne le pratique-t-on pas plus? Par exemple, vous arrivez au boulot et on vous dit « la boss veut te voir ». Votre première pensée n'est pas « ce sera pour me faire un compliment ». Mais oh là, elle doit avoir un truc à me reprocher. Si vous allez sonner chez votre voisin, en général, ce n'est pas pour lui faire un compliment. Si envoyer un compliment n'est pas aisé, avec ou sans la liaison, n'est pas facile. Le recevoir n'est pas facile non plus. Doit-on être étonné? N'est-ce pas vaniteux de s'y attendre? Comment remercier? Ou comment ne pas penser en son fort intérieur qu'on ne le mérite pas? Ou encore, comment ne pas soupçonner le complimenteur de flagornerie?
Bonjour, je voudrais savoir, je m'appelle Isalie, j'ai 5 ans et demi, et je voudrais savoir si quand on dit à sa meilleure amie qu'on n'aime pas son dessin, est-ce que c'est bien? Merci, au revoir.
Je voudrais savoir si quand on dit à sa meilleure amie qu'on n'aime pas son dessin, est-ce que c'est bien? Ta question, nous la prenons complètement au sérieux, Isaïe, puisque nous la proposons à un philosophe, Bernard Stiegler.
Mais c'est une très belle question, oui. Ma réponse est très clairement oui. Il faut, quand on aime vraiment quelqu'un, si on n'aime pas son dessin, il faut le lui dire. Mais il faut le lui dire généreusement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le dire en disant « je t'aime pas », parce que ça peut être perçu comme ça, en fait. Il faut le dire en disant « voilà, ton dessin... il pourrait être comme ça, il te ressemblerait plus. Là, il te ressemble pas vraiment. Fais encore un effort. » Je pense qu'aimer quelqu'un, d'amitié, ou d'amour aussi d'ailleurs, c'est lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est lui faire confiance sur sa capacité à accepter une critique. Évidemment, c'est toujours risqué, parce qu'on peut vexer. C'est difficile de ne pas vexer. La plupart des gens se vexent, en fait, quand on les critique. Et je pense que, néanmoins, il faut pas renoncer à cette critique, parce que c'est ça les vrais amis.
Vous avez dit au début, Bernard Stiegler, ça ne te ressemble pas. En fait, on peut peut-être dire à la personne à qui on commente le dessin, ton dessin n'est pas toi. C'est-à-dire, toi, tu es toi, et ce que tu fais, tu peux te tromper, que ce soit un dessin, ou un gâteau, ou un devoir, ou je sais pas quoi, une chanson, peu importe. Ce que tu fais n'est pas toi. Tu peux rater un truc étant quelqu'un de formidable.
Bien entendu, mais précisément... souvent, nous dessinons, ou nous chantons, ou nous faisons uniquement comme font les autres. C'est-à-dire que c'est pas nous qui le faisons, en réalité. Nous ne faisons que répéter un cliché, ce qu'on appelle un cliché, un stéréotype. Et donc, c'est très important d'inciter ses amis à vraiment dessiner par eux-mêmes, avec leurs propres idées, etc. Et non pas essayer d'imiter un dessin tout fait. Évidemment, un tout petit enfant, par exemple, qui commence à dessiner à 1 an et demi, 2 ans, avec des stylos, gribouille pour commencer. Donc ça dépend un petit peu de l'âge de l'ami. Mais là, bon, je pense que c'est un ou une amie entre 4 et 6 ans.
Avec votre voix douce, vous dites un truc énorme, Bernard Stiegler. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, mais comment le savoir?
Il faut apprendre, il faut s'obstiner, il faut s'élever. Avoir des amis, c'est les pousser dans ce qu'ils ont de meilleur. Il faut absolument pas avoir peur de les critiquer, de leur dire « non, là, c'est pas toi ». Parce qu'en fait, on est soi que de temps en temps. Et justement, avec ses bons amis, ses meilleurs amis, on devient vraiment soi. Ils nous portent comme les amants, comme les amoureux. Avoir des amis, c'est s'élever avec eux.
Belle réflexion que vous pouvez poursuivre entre amis. Bernard Stiegler, donc philosophe, enseigne en France, en Chine, aux États-Unis. Et il préside le groupe de réflexion philosophique Ars Industrialis. Et il a écrit dans La Disruption, comment ne pas devenir fou, au lien qui libère. Vous connaissez le principe des petits bateaux, les enfants posent des questions et des spécialistes répondent. Pascal Cossard est spécialisée en microbiologie cellulaire. Elle est professeure à l'Institut Pasteur et secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences.
Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 10 ans et demi. Je voudrais savoir la différence entre un virus et un microbe. Au revoir.
Alors bonjour Loane. Écoute, un virus et un microbe, c'est carrément différent. Alors, je vais te dire, un microbe, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout petit, que tu es obligé de regarder avec un microscope. Et parmi les choses toutes petites, on a des bactéries, et puis on a éventuellement des virus. Et ta question, elle est très importante, parce qu'un virus, en fait, c'est pas un organisme vivant, c'est pas vraiment un microbe. Un virus, c'est, disons, quelque chose qui peut donner une maladie parce qu'il va entrer dans une cellule, entrer dans un organisme vivant. Donc c'est un terme extrêmement précis. On ne peut pas dire que c'est un organisme vivant, un virus. C'est un organisme qui devient vivant parce qu'il va parasiter une cellule, il va rentrer dans une cellule, il va se multiplier, il va faire éclater la cellule et il va produire une maladie. Mais un virus, c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait. S'il est, par exemple, sur une table, il ne peut pas se multiplier. Il a besoin d'être dans un organisme vivant. Il a besoin d'être dans une bactérie ou il a besoin d'être dans une cellule de votre corps. Par exemple, dans la gorge, par exemple, sur la peau. Et alors là, il est rentré dans cette cellule, il s'y multiplie. Il est en train de déranger toutes les fonctions normales de la cellule. Il fait éclater la cellule et donc il produit une maladie.
C'est ce qu'on appelle un parasite ou c'est encore autre chose ?
C'est pas vraiment un parasite parce qu'il n'a pas une vie à lui. C'est quelque chose qui dérange le fonctionnement normal d'une cellule.
Mais ce n'est pas quelqu'un.
Non, c'est pas quelqu'un.
Pendant que Pascal Cossard parlait, je pensais aux autres utilisations du mot cellule, la cellule de prison ou bien la cellule du Parti communiste. Pascal Cossard a écrit la nouvelle microbiologie, c'est édité chez Odile Jacob.
Je suis la fille sans joie, d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive.
Apparence joyeuse, la chanson ne l'était pas tant que ça. La fille sans joie, piscine de larmes, piscine de sel. C'était Camille.
Les petits bateaux sur France Inter.
La neige a été le sujet de conversation numéro 1 de toute la semaine, du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Hexagone.
Bonjour, je m'appelle Loïc et je voudrais savoir en combien de temps les flocons mettent des nuages pour aller jusqu'à la terre. Merci.
Bonsoir Loïc, oui effectivement Samuel Morin, vous êtes directeur du centre d'études de la neige de Grenoble, vous êtes chercheur en physique de la neige, vous dépendez de Météo France et du CNRS, le CNRS d'ailleurs qui vous a récompensé de la médaille de bronze 2017. Combien de temps met un flocon pour descendre du nuage jusqu'à la terre, demande Loïc, on a l'impression que c'est... Je ne vais pas donner mon impression.
Alors, beaucoup de gens ont des impressions différentes à ce sujet-là.
Ah bon ?
Donc, Loïc, c'est une très bonne question. Et ce n'est pas une question facile du tout. Alors, ce qui est vrai dans ta question, c'est que les flocons, ils sont créés dans les nuages. Et dans les nuages, déjà, ils ne se déplacent pas que vers le bas. Ils peuvent monter, descendre. C'est une sorte de machine à laver incroyable dans l'atmosphère où, finalement, au bout d'un moment, les flocons deviennent assez gros. et ils sont plus attirés par la Terre qu'emportés dans le tourbillon, dans le nuage, et donc ils finissent par descendre. La vitesse de chute des flocons, elle peut être très différente d'un flocon à l'autre, mais ce qu'on peut dire en général, c'est qu'un flocon, ça tombe toujours beaucoup moins vite qu'une goutte d'eau ou qu'une goutte de grêle. Alors il y a des collègues américains qui ont développé une machine qui mesure la vitesse à laquelle les flocons tombent. Il y a eu des mesures qui ont été faites depuis longtemps, un peu à l'œil, et puis il y a des gens qui ont construit des machines qui s'appuient sur des prises de vue, sur des photos,
où on
prend des photos des flocons en différents instants et regarde à quelle vitesse ils descendent. Et ils trouvent en général que la vitesse des flocons, dans la plupart des cas, c'est à peu près 1 mètre par seconde, au niveau de la surface.
Beaucoup ? Je pensais que c'était moins, justement, on parlait d'impression, je pensais qu'ils se baladaient plus. Moi.
Alors, s'il y a beaucoup de vent au niveau de la surface, effectivement, ça va tourbillonner, ils vont remonter, redescendre, etc. Mais en général, si on regarde ça sur des épaisseurs suffisamment épaisses dans l'atmosphère, l'ordre de grandeur, c'est 1 mètre par seconde. Mais 1 mètre par seconde, si on regarde l'altitude des nuages, qui peuvent être plusieurs centaines de mètres au-dessus de nos têtes, là où les flocons sont produits, en fait, le flocon, il va mettre un sacré bout de temps avant d'arriver à la surface.
Par exemple, combien ?
Si le nuage est quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres au-dessus de la surface, en fait, il peut facilement prendre plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, à descendre du nuage jusqu'à la surface. Et ce temps-là, il va le passer à descendre, à tourbillonner un petit peu, éventuellement à s'agréger à d'autres flocons. C'est pour ça qu'à la fin, on n'a pas toujours des flocons sous forme d'étoiles parfaites à la surface. On peut avoir des agrégats un peu curieux. Et puis, s'il fait suffisamment chaud, en fait, il va avoir le temps de fondre.
Ah.
Et donc, ça explique pourquoi, quand il fait plus chaud, en fait, les précipitations, les flocons qui se créent dans les nuages se transforment en pluie au cours de la descente, en fonction des conditions de température que les flocons rencontrent en descendant. S'ils descendaient très vite, même s'il faisait chaud, il n'y aurait pas le temps de fondre. On pourrait avoir des flocons, même par température fortement positive. Comme il prend le temps pour descendre, il a le temps de fondre quand les conditions atmosphériques le permettent.
C'est génial. Et Samuel Morin, est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce qu'une goutte de pluie peut se transformer en flocon de neige sur la route ?
Alors, une goutte de pluie peut difficilement se transformer en flocon de neige sur la route parce que ça prend du temps d'évaporer la goutte de pluie pour refaire le flocon. Et ça, c'est quelque chose qui se produit dans le nuage. On ne peut pas former une étoile à 6 branches, un flocon parfait, sur base d'une goutte de pluie pendant la descente. Ça, c'est pas possible.
C'est comme le pipi des enfants pour les voyages. Il faut le faire avant de partir.
C'est ça. Après, c'est trop tard. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que si la pluie tombe sur un sol extrêmement froid, ça peut givrer, ça peut geler en arrivant à la surface. Mais ce n'est plus un processus qui fait appel à la physique de la neige.
C'est fascinant ces transformations, c'est ça qui vous a attiré vers la neige ?
La neige, c'est un matériau qui se transforme en permanence. Qui se transforme en permanence dans les nuages, qui se transforme en permanence pendant la chute, et qui se transforme en permanence après la chute, une fois que la neige est tombée sur le sol. C'est un matériau avec lequel on ne s'ennuie jamais, et on ne peut jamais considérer que l'observation qu'on a faite un jour à un moment donné va rester valable très longtemps.
C'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais avec la neige. Il y a quelques semaines, je suis allée voir au Grand Palais un tableau d'un artiste qui s'appelle Imas, Y-M-A-S. C'est un pseudonyme, car c'est un grand sportif multimédaillé, champion du monde, champion d'Europe. Il ne veut pas dire son nom, car il préfère que les gens s'intéressent à ses compositions parce qu'elles leur plaisent, et non pas parce qu'il est médaillé olympique. Alors qu'a-t-il exposé ? Un tableau, hommage aux désespérés, une reproduction de l'autoportrait de Gustave Courbet. Cette reproduction, c'est une mosaïque de Lego.
Bonjour, je m'appelle Marcus, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi les Lego ont la peau jaune. Merci.
Les Lego ont la peau jaune. Je ne comprends pas vraiment la question. Mais vous certainement, Émilie Carl, puisque vous êtes responsable de communication chez Lego France.
Alors, bonjour Marcus. Et oui, tu as raison, les personnages Lego, qu'on appelle des mini-figurines, ont la peau jaune. Il y a des bonhommes qui ont été créés à la fin des années 70, avec effectivement ce teint jaune. Et alors, pourquoi ce teint jaune, Marcus ? Pour deux raisons. Déjà parce que c'est une couleur neutre, et aussi car c'est une couleur gaie. L'idée d'avoir une peau jaune, c'est qu'elle ne représente au final aucune origine ethnique, par exemple.
C'est ni noir ni blanc.
Exactement, donc ça permet à l'enfant de donner le rôle, l'origine, l'histoire, la personnalité qu'il le souhaite à sa mini-figurine.
Il a changé depuis ?
Alors oui, il a un peu changé, puisqu'effectivement il a été créé avec ce teint jaune, relativement neutre, et sans réelle, on va dire, expression.
D'accord.
Puis avec le temps, la mini-figurine a évolué, puisqu'on lui a apporté aussi des expressions. À la fin des années 80, par exemple, un univers autour des pirates a été créé. Et donc, on a apporté à cette mini-figurine relativement neutre des expressions grincheuses, joyeuses, de bons ou de mauvais garçons. Également, au début des années 2000, on a diversifié certains univers autour du sport. Notamment avec des produits qui étaient autour du basket. Donc l'idée, c'était de créer des mini-figurines qui représentaient au mieux les vrais joueurs de basket. Ah, c'est donc bon. Avec leurs différentes couleurs de peau, mais aussi, par exemple, leur coupe de cheveux. Donc la mini-figurine a évolué avec le temps, en fonction aussi des univers, des différents modèles. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a même un bébé maintenant. On va dire la représentation de tous les types de populations. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que si on imagine le nombre de mini-figurines qui ont été produites de la fin des années 70 à 2015, on arrive à une population de plus de 5 milliards d'habitants. On pourrait presque dire que les mini-figurines Lego, c'est la plus grande population au monde.
Alors, je voudrais préciser que l'œuvre de Imas n'est pas fabriquée en mini-figurines, mais en briques de Lego. Merci Monsieur Elton John, qui réunit et qui réjouit les vieux et les jeunes. C'était Crocodile Rock, bien sûr. Je vous avais promis de donner le nombre de pétales de la marguerite, toujours le même. Soit 21, soit 34, soit 55, soit pour les grosses 89. Nombre issu de la suite mathématique de Fibonacci, nous l'expliquait ici même Catherine Laine, que nous aimons beaucoup passionnément à la folie. Info à retrouver dans le livre Les Petits Bateaux, bien sûr franceinter.fr.
Je m'appelle... Erwan, J'ai 4 ans. Je voudrais savoir qui a gagné la guerre de 100 ans. Merci.
Dis donc, Erwan, tu n'es pas en retard. Qui a gagné la guerre de 100 ans? Vous demande Erwan Frédéric Ancel. Je conseillerais bien à Erwan, si tu avais un peu plus de 4 ans, de lire L'art de la guerre par l'exemple, édité chez Flammarion, que vous avez écrit il y a maintenant quelques années, Frédéric Ancel. Mais là, tout de suite, qu'est-ce que vous lui diriez?
Eh bien, je vais répondre à Erwan, mais juste avant de lui répondre, je lui dirais que la guerre de 100 ans a duré plus de 200 ans.
Oh là.
Ah oui. Alors, on va pas faire toutes les batailles de la guerre de 100 ans qui, en fait, a duré 200 ans, mais il faut savoir que c'était une guerre de dynastie, autrement dit, de deux rois qui s'affrontaient pour avoir la couronne de l'ensemble de ces territoires. C'est-à-dire la France d'aujourd'hui et, on va dire, l'Angleterre d'aujourd'hui, par-delà la Manche. Et la guerre de 100 ans a été gagnée par le royaume de France. Ça, c'est absolument incontestable. Et pourtant, ça avait très très mal commencé. Les premiers rois valois, à commencer par Philippe VI et puis Jean II le Bon, sont de très bons chevaliers, mais sur le plan politique, pardon de le dire, sont de parfaits imbéciles. Et ils ne comprennent absolument pas les enjeux de cette guerre, tandis que les Anglais en face, qui débarquent beaucoup de troupes en Normandie notamment, la Normandie qui d'ailleurs appartenait à l'époque au royaume d'Angleterre, hein. Faut bien s'en souvenir, absolument. Et au cours de la guerre de Cent Ans, lorsque le royaume de France perdra certaines batailles, eh bien le royaume d'Angleterre ira pratiquement jusqu'à la Loire. Une grande partie du Poitou, du Maine, appartiendront à l'Angleterre. La Bretagne, à l'époque, n'était pas française, elle était indépendante. Et une partie de la Gascogne, mais également de la Gironde avec Bordeaux, était anglais. Hein. Alors attention, on y parlait français. Pourquoi ? Parce que même à la cour d'Angleterre, en réalité, on parlait pour l'essentiel à l'époque à la fois français et anglais.
C'était chic de parler français.
C'était très chic. Et puis, il faut quand même se souvenir qu'en 1066, c'est un prince qui parlait français, enfin normand, Guillaume le Conquérant, qui envahit l'Angleterre et qui va créer des dynasties sur place. Bien. Donc, cette guerre de 100 ans, elle dure donc plus de 200 ans. Mais pour être honnête, il n'y a pas eu énormément de batailles. Il y en a eu quelques-unes. Alors, les plus connues, c'est Crécy, c'est évidemment Poitiers, c'est Azincourt, la catastrophe d'Azincourt en 1415, c'est Châtillon. Mais en réalité, contrairement aux guerres modernes, la guerre de 100 ans pouvait très bien, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne voir aucune bataille. Quelques escarmouches avec Bertrand du Guesclin, bon, mais pas davantage. Et lorsqu'il y avait un engagement, c'était quelques milliers d'archers contre quelques milliers de chevaliers ou d'hommes d'armes. Mais c'était, à la fin de l'engagement, ben, on passait, sinon un accord de paix, en tout cas on faisait un armistice. Donc c'est quand même, à la fin, la France qui a gagné, un peu d'ailleurs grâce à Jeanne d'Arc, hein, qui s'inscrit là-dedans à la fin du XVe siècle. Et il faut citer deux rois, deux bons rois, il faut le dire, qui ont mis fin victorieusement à la guerre de Cent Ans. D'abord, c'était Charles VII, dit le victorieux, dit aussi parfois le roi oublieux, hein, oublié de Jeanne d'Arc, hein, il a laissé tomber Jeanne d'Arc, hein, Charles VII, hein, pour être honnête. Et puis son fils, surtout, Louis XI, qui fut un très grand roi et qui, par sa diplomatie, a fait cesser définitivement la guerre entre les deux royaumes. Ça se passait à la fin du XVe siècle.
Tous les historiens aiment bien Louis XI.
Alors, les historiens, oui, et les gens du peuple, non. Pourquoi ? Parce qu'il court sur Louis XI des bêtises, des rumeurs, selon lesquelles il enfermait des gens dans des petites cages qui bougeaient sans arrêt.
Ah
oui, c'était épouvantable. C'était un roi radin. Moi, je sais surtout que c'était un bon roi qui s'occupait de ses sujets, qui ne passait pas son temps à dépenser l'argent de ses sujets, à faire des guerres inutiles. Et c'est quelqu'un qui a augmenté le royaume de France. Je pense par exemple à la Bretagne, qui a été définitivement annexée au royaume de France, puis bien évidemment donc à la République, grâce à Louis XI.
Frédéric Ancel, les auditeurs de France Inter le savent bien, est docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et également professeur aux États-Unis. Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 4 mars 2018. Reculons plus en avant, enfin plutôt en arrière, pour arriver à la Commune de Paris, à la guerre de 1870. En 1870, Arthur est au collège. Dans « Un ado nommé Rimbaud », édité chez Screen Neo, Sophie Doudé nous raconte cet Arthur, les conflits avec sa mère, les fugues, la prison, la mesquinerie des bourgeois, jusqu'à son arrivée au 20 de la rue Nicolet à Montmartre, chez Monsieur et Madame Paul Verlaine. Voici un livre qui donne envie de lire. Revenons à 2018, pas de répondeur au petit bateau jusqu'au mois de septembre. Mais sur notre site franceinter.fr, vous pourrez tout retrouver, tout réentendre. Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Jérémy Guillon et Noël Bréham. Nous vous retrouverons dimanche prochain à 19h30 et je vous laisse avec Denis Chessou.